incroyable cet autre épisode d'Angle mort version estivale. OK. Je rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ça me saute d'en face à quel point... Rappelez-vous, récemment, je vous ai dit, le dernier épisode, je vous ai parlé que ce serait le fun si on pouvait ventiler notre droit de vote. D'après moi, c'est parti de là, mon affaire. Tu peux ventiler ton droit de vote, c'est-à-dire on peut pas, c'est un hic sur un parti, sur un député qui se propose, sur... T'sais. Mais imaginez si on avait un droit de vote, mais qui était décliné en deux catégories, social et économique. C'est-à-dire que je donne mon X social à Québec solidaire, puis mon X économique aux libéraux, mettons. C'est-à-dire que finalement, ça reste exactement un homme, un vote, sauf qu'on arrête de... je réalise que cette incapacité-là à pouvoir, si tu veux, donner une étiquette aux gens... Ça crée énormément de conflits. OK? Je vais vous donner tout de suite un exemple. Mathieu Bock-Côté. Moi, Mathieu Bock-Côté, je le suis pas mal depuis déjà des années. J'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Le multiculturalisme comme religion politique ». Le gars est d'une précision, c'est un intellectuel d'envergure. Pour moi, là, vraiment. Il réfléchit les questions sociales, les grands mouvements... c'est un gars qui connaît beaucoup de choses, c'est un sociologue, c'est un prof de ça à l'Université de Montréal. Je l'ai écouté encore hier, sa théorie, pourquoi les élites n'aiment pas le peuple. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime puis je trouve très intéressant ce qu'il dit. Mais toujours dans son discours, il y a aussi une approche militante, il ne sera pas obligé, il pourrait être juste le gars que je viens vous décrire, mais il y a une approche militante extrêmement nationaliste. Pour lui, le nationalisme, c'est essentiel. Et il prône ça partout où il en voit. Donc, c'est un Québécois, très anti-canadien. D'ailleurs, chaque 1er juillet, il fait une chronique dans le Journal de Montréal pour chier sur le Canada de façon extraordinaire. Et quand tu écoutes Mathieu Bock-Côté, tu peux confondre ces deux affaires-là et décider que l'ensemble du bonhomme est zéro si tu trouves qu'un des deux aspects que je viens de te décrire est zéro. Le nationalisme de Mathieu Bock-Côté me fait faire ce joke-là que je vous ai fait souvent. S'il y avait une émission de cuisine, il dirait à la fin de son émission... Alors, je résume, ma tarte aux pommes, c'est 6 pommes bien fraîches, une tasse de sucre, de la pâte, égale, faut se séparer du Canada, tu sais. Il voit ça partout. Puis hier, je l'écoutais, puis sa théorie était super intéressante. Puis évidemment, à travers ça, il y a toujours un peu de sel et poivre de nationalisme, puis protéger sa culture, puis t'as l'affaire, qui est tout à fait correct. J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais c'est comme si ça me sautait dans la face que... C'est un double profil. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé un an de temps avec Éric Duhaime. Éric Duhaime était un animateur radio... comment je dirais ça? Il y avait un vrai talent pour faire la job. Un vrai talent... De débatteur, un vrai talent d'écoute. Moi, je le répète, Éric, il n'y a pas une fois qui m'a empêché de dire ou ne pas dire ce que je voulais. J'entrais quand je voulais. Cette complicité-là fait qu'on est devenus des chums, et encore aujourd'hui. Mais est-ce que je trouvais que c'était comme un animateur hors pair? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que ses intentions variaient d'un segment à l'autre. C'est-à-dire que tout à coup, il était vraiment un animateur de façon très naturelle. Donc, ça faisait la complicité que les gens nous ont entendu avoir. Et à un moment donné, il switchait et devenait un militant. C'est-à-dire qu'après une excellente chronique qu'on avait faite ensemble ou un débat où ça avait revolé ou whatever, il pouvait décider que là, il recevait une féministe pour se pogner avec. T'sais, puis je me disais, aïe, aïe, il est 5 heures le soir, vendredi. Une fois, j'ai invité Guy Nantel. Il était supposé faire une heure, Guy, avec moi à Montréal. Guy donne jamais l'entrevue. C'est parce qu'on se connaît. Il est venu, ça a commencé genre à Évin, puis on a eu 15 minutes parce que Éric a booké justement la féministe que je te parle, avec qui il a fait le dernier 15 minutes, ils se sont criés dessus. J'étais en tabarnak. Quand je suis arrivé le lundi d'ailleurs, j'ai fermé la porte, j'ai fait là, pardon, mais les gars, parce qu'il y avait Luc aussi, son recherchiste, j'ai dit, je sais bien que vous êtes zéro de mauvaise foi, vous faites tout le temps ça pour que. Mais là, vous faites plus ça, là. C'est puis, tu sais, c'est comme, hey, OK, hey, on l'a échappé. Tu sais, il y avait une très, très bonne entente entre nous autres, là. Mais ça avait nécessité une intervention. Bon, je fais des petites anecdotes de coulisses, là. Mais tout ça pour dire que Éric Duhaime avait cette dualité-là. Je pense qu'on l'a tous, fois 2, fois 3, fois 10. Mon point ce matin, c'est juste de réaliser qu'à un moment donné, quand il y a un élément de la personnalité de quelqu'un qu'on n'aime pas, on met tout ça au vidange, puis c'est comme si la personne, là, on l'a tout mis dans un beau grand sac vert, puis on a dit, toi, c'est sur le bord du chemin ta place, tu sais. Et ça fait faire aussi toutes sortes de comportements, je dirais, juste la porte à côté. Et là, je vous amène une réponse à une théorie que j'avais balancée, qui avait fasciné notre représentante syndicale, qui est que toutes les Instababes, toutes les top poules qui sont sur Instagram à vendre des produits, whatever, bref, qui en font quasiment carrière, sont anti-vaccins. Puis quand je dis toutes, là, je vous jure, j'ai aucun exemple d'une qui est vaccin. C'est que soit qu'on les entendait jamais parler là-dessus, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas pro, presque tout le temps, ou qu'ils étaient ouvertement anti-vaccin, puis moi, je suis pas pour le vaccin, puis la patente. Qui n'étaient pas nécessairement anti-mesure, hein, faut être très précis, c'est deux catégories. Mais il était anti-vaccin. Et là, je parle de ça avec mon docteur, que je nommerai pas, parce que sinon, il y en a peut-être qui vont être fâchés, mais en tout cas, on échange de ça la semaine passée. Puis j'explique ça. J'ai dit, veux-tu même dire, toi, selon toi? Parce qu'elle, elle a vu toutes les couleurs pendant la pandémie, là. C'est un vrai médecin, là, tu sais. Et elle m'a sorti de quoi que j'ai fait? Ah, ben, calvasse, c'est la grande. Et là, je vais commencer en vous disant une phrase que Mike Ward m'a déjà dit. Mike m'a déjà dit, dans la vie, on veut toujours être ce qu'on n'est pas. On faisait référence à certains humoristes qui n'ont jamais levé parce qu'ils étaient d'abord et avant tout des auteurs. C'est qu'ils ont eu une vraie carrière à écrire pour les autres. Puis quand ils ont essayé d'être eux-mêmes humoristes, ça n'a pas levé. Que des fois, c'est un concours de circonstances, hein, dans la vie. Là, c'est pas ça lève parce qu'il fallait, ça lève pas parce qu'il fallait pas. Une phrase très célèbre dans un film avec Nicole Kidman qui dit « It's not because it is that it should be ». Je suis très d'accord avec ça. Mais on parlait de ça, puis Mike m'a balancé ça, une phrase, encore une fois, les plus simples sont les plus percutantes. On veut toujours être ce qu'on n'est pas. Puis ça, ce n'est une affaire comme la loi de Pareto qu'il faut changer, là, que tu fais comme, ben, écoute, donc, moi, c'est ça. Je me souviens que Dominique et Martin, donc Martin Cloutier, pendant un entracte d'un show qu'on était allé voir, on n'était pas allé voir ensemble, on s'est vus, puis on se connaît, c'est qu'on s'est jasé. Puis, salut Martin, comment ça va, là, tu sais, c'est l'entracte, un show, Saint-Denis, je sais pas quoi. Puis il me dit, ah, il dit nous autres, il dit Dominique et Martin, il dit ça va mieux que jamais. Puis il dit là, il me balance ça de même, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il dit ça va mieux que jamais, il dit parce que j'ai compris mon rôle. Il dit j'ai arrêté de me faire croire que, aux yeux du public, je suis aussi drôle que Dominique. Non, c'est lui qui est drôle. Il a le physique plus drôle, il punch mieux que moi. Ça fait que c'est pas moi le plus drôle, c'est lui. Puis quand j'ai accepté ça, nos affaires ont été encore mieux. J'ai trouvé ça extrêmement fort. C'est que je reviens avec nos amis, les Instababes, qui sont anti-vax, ce que le docteur m'a dit, elle dit, étant donné que, ben là, moi, je rajoute ça, qu'on veut toujours être ce qu'on n'est pas, quand t'as passé ta vie, parce que la fille qui est super top, là, sur Instagram, à 22, 25 ans, elle avait 16 ans, elle était déjà ultra hot, là, tu sais, c'était à la top de son école, puis tous les gars couraient après, bon. Donc, c'est quoi, vous pensez qu'elle, elle a, qu'elle veut être, que le monde ne reconnaisse pas? Brillante. Allumée, intelligente, la fille de qui on veut avoir l'opinion. C'est pas ça, là. C'est pas que c'est pas ça parce que, techniquement, elle peut pas. Tu peux être une fille hyper allumée puis être ses covers de magazine. C'est pas du tout de quoi qui est pas... c'est pas antinomique. Mais tu n'es pas reconnue pour ça. À partir du moment où t'es la top super belle-fille de ton groupe, t'es constamment en déficit de crédibilité. C'est de même. C'est dommage, mais surtout si t'es une fille, t'es vraiment, je reprends mes mots précis, en déficit de crédibilité si t'es un super canon. Donc, tout à coup, arrive une pandémie où tout le monde dit « Voici ce qu'il faut faire, les vaccins, telle affaire. » La chance que tu as tout à coup de dire « Ben moi, non, parce que je sais des affaires que tu sais pas. J'ai vu tel médecin en Inde avec son turban qui nous a dit « Ne croyez pas les vaccins. » Puis alors, voilà. Tout à coup, tu as une dérive super facile pour laquelle, en plus, contrairement à n'importe quelle autre petite théorie de tous les jours qui est soit réelle mais difficile à expliquer, donc qu'il n'y a pas d'adhésion, là, tu en as une que, quand tu dis ça, tu en as trois, quatre autres qui arrivent en disant « Ben oui, puis ça a de l'air que ça donne le cancer, puis c'est terrible. » Ça fait que ça, évidemment, c'est une des explications. Il y a pas un milliard d'explications. Il y a un milliard d'explications, parce qu'on est tous très, très... Le profil psychologique d'un individu, il y a tellement de ficelles sur lesquelles tu peux tirer. Mais je crois que c'est la réponse la plus pertinente à la propre question que je pose. Comment ça se fait que tous ces canons-là sont tout le temps anti-vax? C'est quoi ça? Ça me fait capoter. Alors là, évidemment, tu as peut-être aussi... Bon, on pourrait extrapoler sur d'autres théories du genre. Ben, ils l'ont toujours eu facile à quelque part parce qu'ils ont toujours eu énormément d'attention qui leur sont reportées. Fait que cette attention-là est tout à coup tombe au combat dans un domaine où si tu es prof de yoga ou que tu vends tes jus verts, ben là, tout est fermé. Ça fait que peut-être que là, il y a encore comme « Oh, je viens de trouver un autre bouton. » Puis tout ça peut être très inconscient. Là. Je dis pas que c'est des fines stratégies, tu sais. Mais voyez-vous le lien là, quand je vous parle des différentes facettes qu'on peut avoir? Que tu peux dire « Mathieu Bock-Côté, il est zéro. C'est un intellectuel médiocre. Ses idées sont de la merde. » Pourquoi? Parce que t'es pas nationaliste. Puis tu vois que c'est toujours teinté d'eux. Bon. Fait que là, tu peux dire « Hey, check. Check comme elles sont cruches, les filles qui sont sur Instagram avec 100 000 qui sont à la face. » C'est pas parce qu'ils sont cruches. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme quand j'explique en conférence la raison, puis c'est un truc que je donne à chaque fois, parce que je l'ai appliqué, je l'ai trouvé moi-même, puis ça marche. Comment on fait pour avoir l'attention de quelqu'un qui écoute pas? Ça, les gars sont champions là-dedans, là. Pas champions pour le truc, champions pour pas écouter. C'est que si vous êtes une fille et que vous trouvez que ça soit votre boss, votre chum ou whatever, il n'écoute pas, de un, encore une fois, pour avoir des trucs, il faut comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'écoute pas? Un gars spécifiquement? C'est pas parce qu'il se pense meilleur que vous autres. C'est probablement même l'inverse. C'est par un manque constant de validation. Les gens qui n'écoutent pas veulent toujours qu'on leur dise qu'ils sont bons. T'es bon, et ça, t'es bon, ça, t'es bon. Donc, ils parlent, donc ils s'exposent, donc ils braguent. Ça fait que quand tu veux avoir l'attention de quelqu'un qui n'écoute pas, tu commences quoi que ce soit que tu veux y dire par « Hey, j'ai besoin de ton avis. Tu peux-tu, deux minutes, là, il faudrait vraiment que j'aie ton avis, là, sur... ça m'aiderait. » Hé, calvasse, là, tu viens de l'interpeller, comprends-tu? Oh, mon Dieu! Il demande mon avis. Et là, tu vas y raconter ta fin de semaine, t'es allé en moto, t'as mangé un pogo, la poutine était trop... Tu dis n'importe quoi! Là, tout le long, j'analyse. C'est vraiment hallucinant. Fait que c'est un truc infaillible. J'aimerais vraiment avoir ton avis, là. Tout le monde est comme, même ceux qui sont pas nécessairement du monde qui écoute mal, mais quand tu précèdes ton propos de ça, et là, t'es le roi, là, c'est comme, oh mon Dieu, comment puis-je vous aider? C'est incroyable, mais c'est de même. Alors, c'était ça que j'avais le goût de vous jaser aujourd'hui. Il y a du Québec dans l'air, donc si vous êtes un angle moreux, un angle morois, et que vous êtes à Québec, ça n'a pas rapport, je dis ça quand même que vous êtes là, j'irai pas chez vous en train de dire « Hey, salut, je suis à Québec ». Mais bref, s'il fait beau, parce que là, la météo, c'est vraiment dur à suivre depuis quelques semaines. Calvasse! Hey, tu regardes ça, là, trois heures après, il y a tout le temps un changement. C'est jamais la même affaire. J'ai blâme personne, ça doit être dur à suivre, là, je connais pas ça, mais... Ça fait qu'en tout cas, j'irai idéalement vendredi, je reviendrai dimanche. C'est juste ça que je voulais dire. C'est complètement non pertinent, mais bref. Ah, puis vous irez voir sur ma page Facebook. Là, je prends ma douche toute, puis là, je m'en vais prendre mon café et je m'attaque à ce que je pense est un déluge sur ma page Facebook. Ici, Marc Boilard. J'ai proposé à mes abonnés de faire une performance de surnommiste. Je pense, j'ose pas voir combien il y en a. Hier, après quelques minutes, j'étais rendu à 13. Ça fait que j'en ai au moins pour 2 heures à leur trouver des surnoms. Fantastique. Bravo à moi.